I will not be pushed, filed, stamped, indexed, briefed, debriefed, or numbered. My life is my own.
Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau petit podcast. Faut que j'arrête de faire ça, essayer de trouver le numéro à chaque fois parce que je m'en rappelle plus. Des fois, j'enregistre des trucs à l'avance, je les sors plus tard. Des fois, j'enregistre des trucs que je refais une intro comme plus tard, comme ce que je fais présentement. En fait, aujourd'hui, ça va être un podcast un peu différent de d'habitude pour ceux qui sont pas abonnés à Patreon ou à. C'est cette plateforme-là où vous pouvez me suivre là, pour avoir différents types de matériel exclusif. Dans le fond, on a réalisé sur Patreon, moi et Yann Sénéchal, une discussion là, qui est aussi disponible sur YouTube. Je mettrai le lien dans la description avec Éric Duhem. On a jasé un peu de ses idées politiques, de où ça s'en allait, l'aventure avec le Parti conservateur du Québec, de comment ça se passait. La discussion a été faite avant les événements qui ont eu lieu avec le départ de Claire Samson de la CAQ pour finalement se joindre à lui. Donc, soyez pas surpris si des fois il y a des questions qui peuvent paraître un peu qui n'aient plus de sens. Quand on connaît cet épisode-là, c'est que ça a été fait avant. Donc, je voulais vous le donner parce que je pense que c'est vraiment une bonne discussion qu'on a eue. C'est vraiment en tête, les trucs qui vont un en arrière de l'autre. Je pense que ça a vraiment du sens. Donc, je voulais le faire partager un peu à tout le monde, même ceux qui sont pas sur Patreon. Donc, dans le fond, ceux qui étaient sur Patreon l'ont entendu il y a déjà un mois à peu près. Et maintenant, c'est pour vous autres. Et dans le fond, ça répond aussi à une autre demande. C'est que beaucoup de gens m'avaient dit « Ah, tu devrais faire un podcast avec Yann Sénéchal. Penses-tu l'avoir comme invité à un moment donné? » Ben, avec Yann, je fais déjà des trucs sur Patreon. Donc là, vous avez Yann, vous avez Eric en même temps. Donc, c'est encore mieux. C'est un podcast qui n'a pas vraiment de lien avec ce qu'on fait d'habitude. T'sais, je ne parle pas de grands auteurs, on ne parle pas de philosophie, on ne parle pas de rien. Mais c'est quand même un podcast où on questionne quand même Eric de manière assez serrée sur certains points politiques, la gauche, la droite, ce genre de thématique-là. Fait que je pense que ça va vous intéresser. Puis peut-être vous inciter là, à ceux que ça intéressait, mais qui hésitent encore à vous abonner à Patreon, où vous allez avoir ce podcast-là, évidemment, qu'on fait, moi et Yann, à tous les lundis en général. Et le podcast du trio économique avec Vincent Gelozo. Et aussi, là, des fois, je fais des podcasts avec mon ami Victor, donc Franck et Victor. Les podcasts avec les gars du podcast de garage. Donc, pas mal de matériel, puis pas mal de trucs intéressants pour vous. Sinon, nous autres, on se reparle dans un prochain podcast. Éventuellement, je vais avoir un invité. Ben là, dans le fond, ça se trouve être mon podcast avec invité qui est comme un à l'avance. Mais là, comme pour ceux qui écoutent en temps normal, on est l'été en ce moment. Là, pour une des rares fois, j'essaie de prendre un peu des vacances du podcasting. C'est pas tout à fait possible, comme vous vous en rendez compte actuellement. Mais dans le fond, on va revenir à un horaire plus normal, là, je dirais, là, vers la fin de l'été. Là. En attendant, j'essaie d'espacer un peu les épisodes pour me laisser le temps de souffler puis faire le vide un peu de la radio puis du podcast. Donc, je vous laisse écouter ce petit podcast-là, puis nous autres, on se reparle là, dans le format plus régulier au prochain podcast. Ciao tout le monde. Bon, ben, bienvenue tout le monde dans un autre épisode de Yann et Frank, toujours disponible en primeur pour les membres du Patreon de Yann, de mon Patreon aussi. Et évidemment, comme d'habitude, c'est toujours disponible sur YouTube. Cette fois-ci, on le met en intégralité parce qu'on a un invité. D'habitude, on ne fait pas d'invité, c'est juste Yann et moi. Mais cette semaine, on reçoit Éric Duhaime, nouveau chef du Parti conservateur du Québec. Salut, Éric.
Salut, Frank et Yann.
Yes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Là, les gens ne le savent pas, ça c'est l'envers et l'endos de l'enregistrement. On a fait une première tentative, ça n'a pas fonctionné pour des raisons techniques, mais là maintenant, on est fin prêt. Éric a son décor, toutes ses affaires.
Tout va bien.
Fait que tout va bien cette fois-là. Éric, j'ai envie de commencer en un peu d'une manière différente. J'ai reçu Adrien Pouliot, moi, dans mon podcast, il y a peut-être deux, trois mois, quand il a annoncé qu'il démissionnait. Et puis, il m'avait dit « Mon plus gros défi, ça a toujours été de contrer l'idée du vote stratégique. » J'ai envie de te faire commencer là-dessus. Est-ce que tu penses que ça va être encore une difficulté pour un parti, disons, qui a toujours été considéré comme un tierce parti, comme le Parti conservateur du Québec, que tu vas... Parce qu'Adrien me disait, je faisais du porte-à-porte, j'allais dans les maisons, puis les gens me disaient, écoutez, M. Pouliot, on est d'accord avec tout ce que vous dites, mais moi, je ne peux pas avoir encore un libéral dans mon comté, il faut que je vote pour la CAQ, je n'ai pas le choix.
C'est une bonne question, puis c'est vrai que dans le cas d'Adrien, puis historiquement au Québec, là, ça s'est posé. Je me souviens que moi, à l'époque où j'étais avec l'ADQ, avec Mario Dumont, on vivait le même problème, mais j'ai l'impression qu'on ne le vivra pas à la prochaine élection, essentiellement pour deux raisons. D'abord, parce qu'on n'est plus divisé en trois partis, on est rendu divisé en cinq partis, donc la division, là, ça commence à être très, très compliqué de savoir comment ça va tomber quand on veut le jeu de domino va partir. Et la deuxième raison, c'est que le gouvernement, c'est pas si c'était le Parti québécois, le Parti libéral qui était au pouvoir, puis la CAQ était notre adversaire, là, je te dirais que tu as raison. Mais dans mesure où l'option qui est supposément la plus à droite des quatre partis représentés actuellement est vraiment à gauche, là. C'est quand c'est rendu que Manon Massé va, tout le monde en parle, puis qu'elle dit que tous les partis à l'Assemblée nationale ont viré à gauche, puis que Guillaume Lepage hoche du bonnet, je pense qu'il n'y a aucun doute dans l'esprit de personne au Québec qu'on a quatre partis de gauche à l'Assemblée nationale. Là. La CAQ était peut-être un peu plus centriste, mais regardez le déficit historique qui va nous pelleter ses épaules. Regardez l'augmentation de la taille de l'État depuis qu'ils sont là. La CAQ est tout sauf un parti de droite. Donc là, on a quatre options à gauche, puis on a une option à droite. Au contraire, moi, je pense qu'à la prochaine élection, la division du vote va nous profiter. Parce que les gens qui veulent plus de taxes, plus de gouvernement, plus d'intervention de l'État dans leur vie, ils n'ont pas un choix, ils n'ont pas deux choix, ils n'ont pas trois choix, ils n'ont quatre. Donc, on va diviser le vote en quatre à gauche, puis nous autres, on va ramasser ceux et celles qui veulent un État plus respectueux de nos libertés individuelles, puis plus petit en termes de taille.
Éric, tu as dit récemment que tu étais prêt à négocier avec beaucoup de députés pour les faire venir dans ton parti, qui sont évidemment déjà en place à l'Assemblée nationale. Donc, tu as des discussions avec des libéraux, avec des caquistes. Tu as expliqué ça sur les ondes de Radio Pirate également.
Pourquoi tu dis pas des QS puis des péquistes?
Je sais pas, un petit instinct en dedans de moi. Mais également, ce que tu expliquais, c'est que tu sentais qu'on t'utilisait un petit peu aussi pour négocier une position plus avantageuse à l'intérieur du parti. On vient menacer un peu le chef Kakis, par exemple, en lui disant « Écoute, il faut que tu me fasses quelque chose. J'ai besoin d'une limousine, j'ai besoin d'un poste sur un comité parce que sinon, je vais traverser avec Éric Duhaime. » Ce qui a surpris peut-être certaines personnes quand ils t'ont entendu dire ça, c'est présentement, on va s'entendre, là, les députés d'arrière-ban qui pilent sur leur conviction depuis un an et demi en disant que ça n'a pas d'allure ce qui se passe, mais on le fait pareil pour la ligne de parti. Est-ce que tu penses que ce serait des atouts dans ton parti politique?
Bien, ce serait des atouts pour plusieurs raisons. Puis je comprends les craintes en passant. Là, puis je sais que historiquement, le Parti conservateur du Québec était contre le fait que des gens puissent transférer puis se joindre à nous. Moi, j'ai fait campagne pendant la course à la direction pour dire que j'étais contre ça et que moi, j'allais accueillir à bras ouverts ceux et celles qui pensent comme nous. L'échiquier politique est en train d'être fait. Il y a un nouveau clivage politique au Québec. On le voit de plus en plus. Moi, il y a des gens que je pensais que c'était des alliés idéologiques. Puis je me rends compte que c'est des gens qui ne respectent pas nos droits démocratiques, qui ne respectent pas nos droits individuels, qui sont en train d'approuver puis de pousser pour qu'on aille encore plus loin dans cette dérive sanitaire-là. Je me rends compte que ce n'est pas des gens qui partagent mes idées, mes convictions, mes valeurs. Puis d'un autre côté, des gens que historiquement, qui avaient une sensibilité à gauche, bien, je me rends compte que ce monde-là, il croit à la démocratie pour le droit individuel plus qu'à la dérive sanitaire et ils sont devenus des nouveaux alliés. Fait que dans ce sens-là, je pense qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont. On a tous évolué au cours des 15 derniers mois à notre rythme. Il y en a qui ont été plus vite que d'autres. Il y en a qui, dès le jour 1, ont commencé à dire « Wow, un instant, on ne peut pas mettre le Québec sur pause pour telle, telle, telle raison. » Il y en a que ça a pris du temps. Il y en a que ça a pris... je sais pas, là, qu'on a un rapport de je sais pas quoi. Il y en a d'autres que ça a pris d'annuler les balles de finissant. Il y en a que ça a pris. Il y a toutes sortes d'exemples récents là, qui ont fait que les gens disent « Wow, c'est assez ». Et moi, je respecte ça. C'est normal. On a chacun notre façon d'évaluer les choses. Puis on est chacun dans des milieux et des régions différentes. Les codes de couleur ne nous ont pas affectés différemment en fonction de la géographie. Donc, il y a des députés qui, depuis plusieurs mois, rongent leurs freins. Ils sont malheureux. Ils essayent de parler parce que... Puis je ne suis pas en train de les plaindre, là, mais je veux juste vous dire que ce n'est pas facile pour tous les députés parce que... Il y a d'abord la pression, la ligne de parti, le caucus, le cabinet du chef qui vous met de la pression énorme, qui vous menace. C'est le bâton puis la carotte tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis de l'autre côté, quand ils vont faire leur épicerie ou quand ils se promènent dans la rue, le monde les apostrophe pour leur dire que ça n'a pas de maudit bon sens ce que le gouvernement est en train de faire. Ils leur parlent de leur détresse psychologique, de leur détresse économique. Fait que les députés sont pognés entre représenter leurs citoyens qui étirent d'un bord puis leur parti qui étire de l'autre. Je comprends que c'est déchirant, puis ça prend du temps, puis il y en a un moment donné qui vont céder puis qui vont s'en aller avec nous autres, puis il y en a d'autres qui ne seront pas capables puis qui vont suivre la ligne de parti.
Parce qu'à un moment donné, on s'entend, la CAQ va finir par manquer de nanane, dans le sens ce qu'on comprenait, c'est qu'on garde certains députés avec des postes importants sur des comités, ça donne certaines primes, par exemple. Les journalistes, on le sait depuis le début, on donne énormément de subventions et également de budget publicitaire pour les avoir de notre côté. Sauf qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que tu peux faire pour utiliser la carotte pour garder le monde à l'interne. Puis on le voit aussi, ça a commencé à brasser un peu le député Marie-Ève Proulx, député Fitzgibbon, qui reste à l'intérieur du caucus. On fait tout en notre pouvoir pour éviter une élection partielle. Je pense qu'on craint que tu te présentes probablement dans une élection partielle. Jusqu'à quand ça peut tenir, ce château de cartes-là?
Peut tenir longtemps, Yann, parce que malheureusement, il n'y a pas juste les nananes que tu viens de mentionner. Oui, c'est là, tu sais, je vais te nommer ministre, je ne te nommerai pas ministre, je vais te mettre vice-président de tel comité, ça va te donner 15 000 $ par année, puis je vais te donner un titre prestigieux, je vais te rendre responsable. Bon, il y a toutes sortes de choses, mais il y a aussi, tu sais, ta femme pourrait travailler pour tel ministre, ta fille pourrait être nommée dans tel organisme. Ça ne finit plus, là, ton organisateur, on pourrait y trouver un petit job, je me cherche justement quelqu'un pour tel genre de... Fait que, tu sais, les nananes, là, c'est presque infini. Puis Dieu sait que la CAQ en a. Le problème que j'ai, c'est que moi, j'ai zéro nanane à offrir. J'ai pas une tôle. Fait que j'ai pas de job à lui promettre. J'ai pas une scène à lui donner. C'est un gros défi. Fait que moi, je fais appel à leur conviction, à leur sens du devoir, à leur sens de la responsabilité. Puis c'est ça. Puis la CAQ, c'est à leur portefeuille. Fait que c'est dur. Là, la bataille, la côte est dure à remonter des fois quand j'en rencontre quelques-uns. Mais j'ai confiance qu'il y a encore des gens de conviction puis qu'il y a des députés qui vont suivre leurs électeurs plutôt que leur chef aveuglément. Et
justement, si tu veux continuer là-dessus, les finances du parti, je pense que tu annonces ça cette semaine, ça allait vraiment bien, là, dans le sens que les donateurs disent présents présentement.
Okay, je vais te donner les chiffres d'aujourd'hui parce qu'on a encore des nouveaux chiffres. Parce qu'à tous les jours, ça change sur le site du DGEQ. Il y a des chiffres à tous les jours qui donnent le nombre de donateurs. Et là, en date du 10 juin, là, pour ceux qui l'écoutent en différé, le Parti conservateur du Québec a 4101 donateurs. La CAQ a 3869 donateurs. Le Parti québécois, 3811. Le Québec solidaire, 1776, puis le Parti libéral du Québec, 1217. Donc, on a quasiment 4 fois plus de donateurs que le Parti libéral, plus que 2 fois que QS, puis plus que la CAQ et le PQ. Donc, c'est des chiffres extraordinaires. Il faut calculer que nous, on n'a pas fait de financement avant le 17 avril. Tout l'argent que je ramassais, c'était pour ma course au leadership qui n'est pas comptabilisé là-dedans. Là. Moi, j'ai un autre 1200 donateurs qui ont contribué à ma campagne. Merci, Yann, tu fais partie de la courte liste. Et tandis que les autres partis ramassent depuis le 1er janvier. Nous autres, c'est depuis le 17 avril. Et malgré ça, on les a dépassés en nombre. On ne les dépasse pas cependant, je vais préciser quelque chose, on ne les dépasse pas en montant d'argent. Et ça, c'est intéressant. Le don moyen d'un conservateur, c'est à peu près 30$. Le don moyen là, des autres partis, c'est entre 80 et 90$.
Le maximum presque, là, qui est 100$.
Fait que les gens donnent plus aux autres partis. Puis ça, il y a plusieurs raisons. D'abord, tu sais, quand les députés puis les attachés politiques puis les gens qui travaillent dans les cabinets donnent de l'argent, ils donnent 100$, là, ils sont obligés de donner 100$ ou à peu près. C'est comme implicite quand tu te fais engager. Ça augmente la moyenne des dons. Mais l'autre chose aussi, je pense, c'est qu'on s'adresse à des gens qui ont beaucoup souffert économiquement ces derniers mois. Puis on n'en parle pas beaucoup parce que les médias, les politiciens, puis plusieurs business aussi, là, il y a des gens qui ont fait de l'argent depuis 15 mois. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et moi, c'est à eux que je parle beaucoup depuis que j'ai annoncé ma candidature. Je suis conscient, puis à tous les jours, je reçois des témoignages de ça. Il y a beaucoup, beaucoup de gens pour qui la vie est un calvaire et l'enfer depuis mars 2020. Puis on ne parle pas beaucoup de ces gens-là, puis on ne les voit pas dans les médias. Mais ce matin, on a la une du Journal de Québec, là, mais c'est rare. Là. On parle de la détresse psychologique, comment ça a explosé dans les hôpitaux du Québec là, chez les jeunes. Puis on commence à le voir, mais j'ai l'impression que plus le temps va passer, moins on va parler de cas. D'abord parce qu'il n'y en a plus, mais deuxièmement parce qu'il va y avoir d'autres nouvelles pas mal plus scandaleuses, puis ça va être les impacts, les victimes collatérales des mesures sanitaires abusives des 15 derniers mois. Puis c'est tant sur
dans le fond, plan ce que tu es en train de dire, c'est que François Legault aimerait bien ça avoir une élection présentement et moins l'année prochaine.
Ouais, c'est clair que le temps va jouer contre lui. Là. C'est clair que Justin Trudeau, là, la fenêtre est en train de se refermer. Il faut qu'il y aille au plus sacrant. Là. Je pense qu'on va s'en aller en élection fédérale très, très tôt au retour des vacances d'été. Mais plus ça va attendre, plus les gens on va voir les impacts de leur politique plutôt que juste le chèque. Puis les chèques, ils vont en avoir de moins en moins qui vont rentrer. Là. Même les subventions aux médias, ça va arrêter un moment donné. La subvention salariale va arrêter. La PCU, c'est fini. Fait que, je veux dire, il y a toutes sortes de trucs qui font qu'on va voir vraiment l'envers de la médaille bientôt.
Mais tu sais, Éric, tu parlais de nouveaux clivages ou de nouvelles redéfinitions des oppositions politiques. T'sais, ça fait un peu penser à quand on était jeune, on jouait au hockey, on mettait les bâtons dans le milieu, puis là, on sépare ça, on refait les équipes. Mais il y en a un parti qui est né d'une redéfinition d'un clivage politique. Avant, on se séparait entre séparatistes puis fédéralistes, souverainistes fédéralistes. Et puis, est arrivé l'ADQ qui a cheminé progressivement et puis finalement, la CAQ a avalé tout ça pour faire une espèce de gros parti. Mais aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la cohérence idéologique d'un parti comme la CAQ est assez faible. C'est rempli d'anciens péquistes. Il y en a qui sont plus libéraux là-dedans. Il y a des anciens ADQistes qui finalement se bouchent le nez parce qu'ils veulent conserver un poste de député. Est-ce qu'il n'y a pas le même danger pour ton aventure politique de justement rallier à toi des gens? Tu sais, je t'ai vu faire un live avec une fille qui avait été candidate pour QS. On voit, mettons, quelqu'un comme Benoît Giroir ou un Normand Mousseau. Tu sais, c'est des gens qui, traditionnellement, comme tu disais, sont plus à gauche. Mais finalement, on se rend compte que sur le respect des droits individuels, la liberté, les droits démocratiques, on a des points en commun plus qu'on pensait. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger que quand la pandémie va se finir, parce qu'à un moment donné, il va y avoir une fin à tout ça, on ne revienne pas à nos anciennes chicanes, et puis là, ben, tu te retrouves avec des gens avec qui, finalement, tu n'en as plus de points en commun.
C'est une bonne question, puis tu as raison de t'inquiéter, puis moi aussi, ça me préoccupe, cet enjeu-là. Cela étant dit, je crois qu'on le surestime, parce que pour avoir été à l'ADQ, j'ai vu les deux, tu sais, je l'ai vu de l'intérieur. L'ADQ a connu sa plus grosse montée de son histoire quand il y a eu la crise des accommodements raisonnables. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oh, là, oui, mais il y avait eu les YMCA à Montréal qui bloquaient des fenêtres pour plaire à une communauté religieuse. Puis il y avait dans une cabane à sucre là, des prières puis de la bouffe halal. Puis bon, ça avait parti en vrille. Là. Et l'ADQ a connu vraiment cette année-là, on parle en 2007, là, une explosion. Là, le parti est passé à 41 députés à quelques centaines de voix de prendre le pouvoir.
Mario Dumont était vu comme le gars qui mettait ses culottes. Là.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Mais cet enjeu-là, c'était pas un enjeu de plus ou moins d'État. C'était pas un enjeu de liberté individuelle. C'était pas un enjeu fondamental sur des valeurs conservatrices. Moi, je pense que ce qu'on vit actuellement, c'est beaucoup plus une crise qui est alignée avec la division idéologique qui nous représente. C'est-à-dire que La crise sanitaire, là, on voit les dangers d'un gros gouvernement, on voit les dangers d'un gouvernement qui ne respecte pas les lois du marché, qui déstabilise tout le marché, toute l'économie, qui nous endette de façon phénoménale, qui met la démocratie sur pause. Là, on voit que finalement, les gens qui sont des démocrates, les plus grands démocrates, c'est les gens qui veulent moins d'État. Il y a quand même un paradoxe, mais ce n'est pas si paradoxal que ça quand vous lisez un peu ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a quelque chose qui est en phase beaucoup plus avec notre base idéologique. Puis je pense que les gens qui nous rejoignent, qui viennent de gauche, ils viennent de se rendre compte qu'ils étaient là pour les bons sentiments, mais quand ils arrivent aux valeurs fondamentales, ils ne sont pas si à gauche qu'ils pensaient, ils sont beaucoup plus à droite qu'ils pensent. Et j'ai confiance que ces gens-là... Puis à la limite, là, je sais que l'étiquette gauche-droite, elle dérange des gens. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, c'est pour ça que de plus en plus, je parle de respecter les droits démocratiques et les libertés individuelles. Ça définit plus parce qu'il y a trop de gens qui pensent que gauche, c'est bon, puis droite, c'est mauvais. Tu sais, on a tellement
Québec,
été diabolisés là, pendant des décennies dans les médias qu'il y a des gens qui associent gauche à bon puis droite à mauvais. Là. Fait on va le définir en fonction de ce que c'est. Puis pour moi, ce qui est le plus important à droite, c'est les libertés individuelles, c'est les droits démocratiques fondamentaux. Puis l'autre truc, c'est que la droite aussi là, est associée parfois, puis il y a beaucoup de gens de la gauche qui ont peur de ça. Il y a beaucoup la droite sociale, morale, là, la question d'avortement, entre autres, là, qui préoccupe les droits des gays. C'est sûr que le fait que je sois ouvertement gay, je pense que cet enjeu-là est peut-être moins présent maintenant. Puis le fait qu'au Québec, ce n'est pas vraiment un débat comme dans le reste du Canada ou encore pire aux États-Unis. Donc, je pense qu'on va réussir à démystifier ça, puis il nous reste 15 mois pour le faire.
Ben justement, parlant du... Tu as effleuré un peu cette question-là, le droit des gays, le droit des minorités, etc. Il y a quelqu'un qui posait une question sur Patreon qui était très longue, là, donc je la reformule. Il demandait, par exemple... est-ce que dans une certaine partie du Québec, si on disait, par exemple, Dominique Anglade en région, ça peut être difficile, c'est à cause de son français, ses origines, etc. Est-ce que tu penses que le fait d'être maintenant ouvertement gay, est-ce que tu penses que ça peut nuire dans certaines régions du Québec ou est-ce que tu penses que ça peut être un frein pour tout le monde? On disait à l'époque que ça l'était pour André Boisclair, par exemple. Est-ce que tu penses que c'est encore une question ou 2021?
Je pense qu'André Boisclair, oui, ça a été un problème, mais c'était à cause des frasques qui entouraient ça. Ça a ajouté à toutes sortes de trucs. Je pense pas que c'était ça. Moi, écoute, là, j'ai 52 ans, j'ai jamais senti discrimination au Québec. Je pense qu'on est un des peuples, sinon le peuple le plus tolérant pour le respect des minorités. C'est vrai pas juste pour les gays, c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour un paquet de minorités. Donc, moi, je ne sens pas ça. Je me souviens que quand j'ai parlé de mon homosexualité, quand j'ai écrit mon livre « La fin de l'homosexualité, le dernier gay » il y a 4 ans, beaucoup de gens prédisaient ma disparition dans les médias à Québec comme animateur de droite, que c'était pour être le dernier clou dans mon cercueil. Le sondage d'après, j'avais monté comme jamais, j'avais monté en faisant de la radio. Fait que, tu sais, je pense que des fois, là, on accorde beaucoup d'importance à ces enjeux-là. Les gens... C'est tout le monde qui
puis on oublie
là.
Que les grosses critiques, en réalité, que tu avais eues étaient beaucoup plus de la communauté gay que des
autres. Ben oui! Mes pires critiques, ça a été les gays. Ça n'a pas été les hétéros là, qui c'est pas, ça n'avait aucun rapport. Et l'autre truc aussi, c'est que tout le monde dans la société, là, on a tout un cousin gay ou un voisin. Je veux dire, ça fait partie de la communauté. Les gens le connaissent, l'ont démystifié, ça fait longtemps. Puis je pense pas que ça va du tout être un enjeu. Puis au contraire, moi, je pense que s'ils se mettent à m'attaquer là-dessus, ça pourrait avoir l'effet boomerang. Là. Ça pourrait leur revenir dans le front assez vite. Là.
Écoute, Éric, on va peut-être parler un peu plus de politique publique ou de choses comme ça. T'as un côté libertarien en toi qui est assez évident. Oui. Je veux dire, on s'agit juste de regarder ta feuille de route, puis on le comprend assez vite. Il y a beaucoup de gens, surtout Adrien Pouliot, c'est un clou, par exemple, qui tapait énormément l'impôt des entreprises. Il disait, par exemple, les subventions aux entreprises, c'est trop gros, on devrait les enlever, qui est à abolir complètement l'impôt corporatif. C'est des idées qui ont toujours séduit, veut pas, les gens un peu plus à droite d'abolir l'impôt des entreprises. L'argument a toujours été... de dire ben une entreprise en réalité c'est une feuille de papier, c'est constitué d'employés, d'employeurs, ces gens-là sont tous taxés déjà, les consommateurs payent déjà leur taxe à consommation. Donc on pourrait arrêter de se faire croire que c'est intelligent de les, détaxer, puis on pourrait surtout en attirer plus pour qu'ils viennent chez nous, puis faire croître l'économie, et ainsi de suite. On sait, on a un côté au Québec un peu anticorporatif. T'sais, on le voit là, présentement, il y a des employeurs qui parlent de pénurie de main-d'œuvre, puis la critique première qui arrive toujours, ben, payez-les comme du monde. Puis là, les gens se choquent, puis tout ça.
C'est pas parce que le gouvernement leur donne 12$ à l'heure à rester chez eux, rien faire, ça n'a pas rapport avec ça.
Fait que c'est sûr que quelqu'un comme toi, dans la position de chef conservateur, tu pourrais te rendre à un extrême qui est vraiment d'abolir complètement l'impôt corporatif, ou tu pourrais simplement opter pour le statu quo. Y a-tu des idées aussi que tu aurais en tête pour améliorer un peu l'aspect corporatif au Québec, dans le sens de la vision des Québécois par rapport à la corporation? Parce que ça nuit, je pense, à notre entrepreneuriat, ça nuit au fait que les gens ne veulent pas se partir en entreprise.
Moi, là, Yann, tu le sais, là, ceux qui nous écoutent, qui ne me connaissent pas, vous allez le savoir, je suis quelqu'un, effectivement, qui croit à la liberté d'entreprendre puis d'innover. Puis ça veut dire que le gouvernement doit cesser de choisir des gagnants puis pénaliser tous les autres entrepreneurs en les surtaxant. Donc, les subventions d'entreprise, en partant, j'ai un biais idéologique contre, puis j'ai un biais idéologique en faveur des baisses d'impôts pour l'ensemble des entreprises, mais aussi des individus. Donc, ça, c'est ma boussole personnelle. Cela étant dit, je ne suis pas quelqu'un qui est idéologue dans le sens de je ne suis pas dogmatique, puis je ne vais pas imposer quelque chose qui est pour aller jusqu'au boutiste. Là. Je pense qu'en politique, il faut que tu essaies de faire des consensus, il faut que tu fasses avancer. Mon objectif, ce n'est pas de dire c'est 100 ou 0. Mon objectif, c'est de dire qu'il faut aller dans cette direction-là. À quelle vitesse on va y aller? Moi, je veux y aller à la vitesse que le peuple québécois va être prêt à y aller. Il y a des choses qui sont très souhaitables dans la vie. Il y a des choses qui sont réalisables parmi ce qui est souhaitable, parce qu'il y a des choses qui ne sont carrément pas réalisables dans le contexte actuel et dans le contexte québécois. Puis après ça, il faut que ça soit vendable. Mon objectif, c'est aussi de faire un consensus puis de m'assurer que la majorité de la population va être d'accord avec. Puis, je suis conscient qu'en politique, tu ne peux pas tout changer dans un mandat. Fait qu'il va falloir prioriser aussi puis prendre 4, 5, 6 affaires puis dire voici ce que le Parti conservateur va faire pendant les 4 premières années de son gouvernement. Puis, il va falloir cibler les 4, 5 bonnes affaires. Je sais déjà que la santé va être la numéro un. La première chose qu'on va faire, c'est améliorer l'efficacité du système de santé au Québec. Ce n'est pas normal qu'on envoie 50 milliards par année là-dedans, puis qu'il arrive un virus, somme toute, assez petit, là, comparé à ce que ça aurait pu être, là, puis que c'est l'hécatombe dans notre système de santé après quelques semaines, puis qu'on est obligé, nous, comme Québécois, de sauver le système, parce que le système est pas là de sauver notre population. Donc, il va falloir en choisir 3-4 autres, puis faire campagne là-dessus avec des thèmes très centrés, parce que historiquement, le parti n'aspirait pas à gouverner, puis n'aspirait pas à avoir un gros succès électoral, fait qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mesures, puis ça faisait plaisir à beaucoup de petits groupes, mais moi, je pense que pour la prochaine élection, il va falloir être un petit peu plus discipliné, puis un petit peu plus focalisé sur les 4, 5, 6 enjeux, puis tu en as nommé un, là. Permettre à nos entreprises d'être compétitives, là. Puis c'est pas juste pour les entrepreneurs qu'on fait ça, c'est pour les travailleurs, c'est pour l'économie du Québec, là. Puis c'est pour notre système de santé puis d'éducation qui va en bénéficier quand on va recommencer à mettre plus d'argent dans les coffres de l'État, donc puis à créer de la vraie prospérité. Donc, c'est sûr que ça va être un des chantiers importants, puis un des 4, 5 engagements majeurs du Parti conservateur.
Éric, dans sa biographie, René Lévesque disait que quand tu arrives en politique, tu penses que tu peux tout changer, puis finalement, tu t'aperçois que l'État québécois, puis imagine, lui, ça c'était en 76, là, en 1980, qu'il a eu à faire face à ça, il disait, tu t'aperçois que finalement, l'État québécois, c'est un gros, il dit, je pense que son expression, c'est un gros paquebot qui bouge très lentement. Tu as parlé des réalisations, tu sais, puis des objectifs. C'était une question aussi de quelqu'un sur Patreon qui demandait à quoi on peut s'attendre de réaliste dans un premier mandat, par exemple, d'un gouvernement qui serait dirigé par toi. Parce que, tu sais, on a vu la CAQ qui ont fait toutes sortes de promesses. « Ah oh, oui, nous autres, moi, je démissionne s'il n'y a pas un... » Je nommerai pas la personne, on sait de qui je parle. « Moi, je démissionne s'il n'y a pas une pelle pour creuser le à l'époque, lien. C'était un pont, le troisième lien, avant le début, avant la fin du mandat. » Tout le monde disait « C'est impossible. »
Tu ne parles pas d'Éric Kerr, là, hein?
Oui, non, c'est ça, on ne parle pas de l'État. Puis finalement, ben, ils nous ont déposé un plan. Puis, finalement, moi, je vais avoir beaucoup plus de cheveux blancs que j'en ai actuellement quand il va y avoir un tunnel, là. Donc, comment on fait pour arriver avec un scénario réaliste, considérant le degré d'inertie, dans le fond, de l'appareil d'État, de la machine gouvernementale?
Tu as raison qu'il faut falloir qu'on. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on soit très discipliné dans cibler les 3-4 affaires parce qu'on ne pourra pas tout changer. Ça, c'est fondamental. Puis pour moi, tu sais, je commence à être un peu plus vieux. Là. Je fais de la politique depuis très jeune, là, depuis l'âge de 16 ans. Mais j'étais plus idéaliste puis plus pressé il y a quelques années. Aujourd'hui, je suis peut-être un peu plus pragmatique. Mais je suis conscient de ça. Puis il va falloir qu'on fasse adopter ça par nos membres aussi. On va avoir un congrès au mois de novembre où on va justement prioriser nos engagements. Et, mais moi, là, c'est pas compliqué, là. Je vais vous donner trois exemples, mettons. Là. Moi, juste dire, on va ouvrir à de la concurrence dans le système de santé, puis on va décentraliser pour avoir un système plus efficace. Juste faire ça dans le système de santé. Juste dire, on va au niveau de nos finances publiques, là, retrouver l'équilibre budgétaire. Je te dis, ça va tout être un chantier, là, faire ça sur 4 ans, parce qu'on y est. François Legault est en train de nous mettre dans le trou, pas à peu près. Là. Et puis, en matière d'éducation, là, l'objectif, c'est sûr que c'est de mieux faire réussir nos élèves, là, puis par différents moyens. Mais si on avait juste trois petits objectifs, trois, quatre, là, c'est pas, t'en as pas besoin de 500, là, ça serait déjà très, très, très important. Le système de santé, là, je ne sais pas combien il y a eu de réformes puis de virages en rond depuis qu'on est jeune, qu'on entend parler de ça. Là, je ne peux même pas nommer tous les ministres de la Santé qui ont proposé des réformes. Puis le système, il ne marche toujours pas. Ils sont tous dans le même paradigme. Ils proposent tous de faire un petit peu plus de ce qui ne marche pas. Puis ça donne toujours le même résultat. Fait que nous, on va amener juste le fait qu'on va ouvrir de l'oxygène. T'sais, c'est niaiseux, mais juste le fait d'apporter de la concurrence puis de donner de la liberté de choix. L'efficacité, là, ceux et celles qui croient à l'entrepreneurship, là, vous le savez, elle va être au rendez-vous. Et c'est un peu ça qu'il faut, il faut réussir à implanter ça dans le système public.
On parle à chaque semaine avec Vincent Gélozo dans un autre podcast, oui. Et puis il nous répète souvent qu'en politique, si on veut que les choses changent un tant soit peu, il faut modifier les règles du jeu. C'est l'expression qu'il emploie. Donc, par exemple, je prends un exemple très concret, la loi sur l'urgence sanitaire. Donc, même si on fait élire le gouvernement le mieux intentionné du monde avec les gens les plus compétents, selon une méritocratie, tous les critères qu'on veut avec les idées qui nous répondent, si les règles du jeu, les incitatifs sont là, qu'on leur permet, s'il arrive un problème, de prendre les pleins pouvoirs, de pas respecter la démocratie, de pouvoir utiliser justement ces instruments-là que la loi permet pour faire tout et n'importe quoi. On va arriver probablement au même résultat. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des éléments comme ça qu'on doit changer absolument? Oui. Je pense à ça. Mais on pourrait aussi parler de l'idée qu'on crée toujours de nouvelles lois, mais on ne se pose jamais la question d'en abolir d'autres. T'sais, est-ce qu'on ne devrait pas se doter, par exemple, de certains mécanismes? Ben là, quand on veut mettre un nouveau projet de loi, il faudrait réfléchir à quel règlement vétuste qu'on finalement on devrait abolir.
C'est toutes des bonnes questions. Là, d'abord, sur la loi d'urgence sanitaire, là, ça, c'est pour moi, c'est la loi sur la santé publique, c'est la première loi qu'il va falloir modifier parce qu'on a tellement souffert dans le dernier mandat des effets pervers que ça a produit que plus jamais il faut permettre à un seul homme d'avoir tous les pouvoirs puis de gérer par décret depuis 60 décrets, puis c'est pas encore fini. Puis si on l'écoute, j'ai l'impression qu'on va être encore en urgence sanitaire aux élections. Là. Il est tellement pressé à sortir de tout ça. Donc ça, je pense que c'est un exemple concret qu'il faut enlever cet outil-là. D'autant plus que vous savez que la loi sur la santé publique n'a pas été pensée pour que quelqu'un agisse de la façon dont François Legault agit présentement. Il fait une interprétation très tordue de l'actuelle loi, parce que l'actuelle loi dit qu'il peut effectivement renouveler ça par décret, donc à chaque conseil des ministres, en moins de 2 semaines, donc il le fait toutes les semaines, là. Puis que sinon, si c'est un délai de plus de 30 jours, mais là, il faut qu'il passe devant l'Assemblée nationale. Mais lui, il dit, j'ai pas de délai de 30 jours parce qu'à toutes les semaines, je le passe au Conseil des ministres. Mais moi, j'interprète pas la loi comme ça. Moi, je l'interprète que 30 jours, quand ça fait plus que 4 décrets que tu adoptes, il faut que tu retournes à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un exemple de comment c'est pas juste les lois aussi. Des fois, c'est l'interprétation qui en font. Ils font ce qu'ils veulent. C'est un peu ça le problème. C'est l'espèce de chèque en blanc qu'on donne trop souvent à nos élus. Puis il faut mettre des. Il faut protéger le citoyen et le peuple contre ça. Puis il faut leur donner des pouvoirs, des contre-pouvoirs pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Puis,
normalement, c'est arrêter le système de justice qui aurait dû nous protéger un peu dans cette crise-là. Puis tu me corriges si je me trompe, mais si on a une déception comme Québécois, je pense, c'est notre système de justice dans cette crise-là. On a l'impression qu'il y avait les gens n'avaient pas de recours, très difficile de faire
je
changer
sévère,
les choses.
Là. Il n'y a pas juste le système de justice. Moi, je suis un peu déçu dans bien d'autres choses. Là. Je pensais que tu étais déçu d'avoir voté pour la CAQ, là, mais non, mais le. Sérieusement, la justice, il y a eu quelques petites affaires. On se rappelle des itinérants qui ont gagné là, quand ils ont fait le couvre-feu. Les itinérants ont eu le droit de coucher dehors. On se rappelle que la communauté juive hassidique a gagné devant les tribunaux aussi pour pouvoir faire ses rassemblements religieux. Puis tu oublies l'autre accommodement, puis l'autre. Ça, c'est pas la justice, mais c'est quasiment religieux. Puis c'est le Canadien de Montréal qui nous a fait déconfiner une fois pour toutes. La Sainte Flanelle et le Dieu Tout-Puissant se sont réunis. Fait que non, mais il y a quand même eu des petites percées, mais tu as raison. Puis on ne les a pas très contestées non plus, là, parce que, tu sais, je pense par exemple aux contraventions, là. Moi, je suis convaincu que, je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr que ça va tenir devant les tribunaux, cette affaire-là, là. Pas plus que les hôtels prison de 3 jours dans lesquels on a envoyé les touristes qui rentraient au pays. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux qui ne sont pas encore réglés, hein. Il y a encore des questions qui sont devant les tribunaux,
Mais
mais tu
pourquoi
as
c'est
raison,
lent
ça
devant
aurait pu
les
aller plus
tribunaux?
vite.
Est-ce que c'est notre parent pauvre au Québec? Est-ce qu'on manque d'argent dans nos tribunaux ou on a un système qui est trop vétuste? On a l'impression que ce système de justice-là est rendu archaïque carrément parce que tout est long, tout prend du temps. Puis c'est rendu que la plupart des gens qui pourraient avoir des causes intéressantes ou qui voudraient avoir une cause finissent toujours par abandonner parce qu'ils se disent, écoute, il n'y a rien à faire.
Oui, puis ça coûte une fortune aussi, là. Il faut comprendre que
Exact.
les avocats ne travaillent pas à 15 piastres de l'heure et que c'est long, c'est long, c'est long. On me dit que la crise a été bénéfique pour le système de justice dans mesure où enfin les
Oui.
procès là, à distance, puis les témoignages, puis il y a toutes sortes les nouvelles technologies ont été mises à contribution. Il semble que ça, c'est un des effets bénéfiques. Mais tu as raison que c'est un enfant pauvre au Québec. Puis pourquoi? Parce que s'il y a une chose qui est un rôle de l'État, c'est la justice. Je pense, à la base, là, c'est une des fonctions les plus importantes de l'État. Puis c'est une des raisons d'être du gouvernement. Mais le gouvernement s'est tellement mêlé des affaires des autres qu'il a abandonné ses propres affaires. Et on veut tellement tout gérer qu'on est rendu qu'on investit dans une cimenterie, puis on essaye de gérer des restaurants, puis on essaye de tout faire. Ce que le privé fait 100 fois mieux, puis pendant ce temps-là, ce qui est la fonction fondamentale de l'État, bien, on l'a négligé. Puis ça donne un système de justice où on a des arrêts de Jordan parce que les gens attendent pendant des années avant d'avoir leur procès, puis on est obligé de libérer des criminels parce qu'à un moment donné, c'est comme indécent de les laisser poireauter pendant 3, 4, 5 ans devant le tribunal. Donc, t'as raison. Je veux dire, il va falloir qu'on revienne à la base. Puis la base, ben, c'est d'avoir un système de justice juste, puis qui soit justement dans des délais raisonnables et qu'on finance adéquatement.
On poursuit un peu avec quelques questions, Éric, des gens sur Patreon. On est content, ça a participé quand on a dit que tu allais être invité. Il y a beaucoup de gens qui avaient des questions. J'en rassemble un peu ensemble pour qu'on ait le temps de parler un peu de tout. Il y avait quelques questions qui concernent, tu sais, dans le fond, les gens sont un peu préoccupés par tous les autres aspects dont on ne parle pas souvent. Ils pensent que, tu sais, quand tu es un parti identifié comme étant plus à droite, tu sais, tu parles d'économie, de finances publiques, ce genre de choses-là. Puis là, les gens, ben, tu sais, ouais, ben, est-ce que Éric, il y a quelque chose pour l'agriculture ou est-ce qu'il pense à ça? C'est quand même important. Il y a beaucoup de cultivateurs au Québec, de fermiers, etc. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de concret en environnement aussi? Tu sais, c'est des trucs qui reviennent quand même assez souvent parce que, tu sais, on ne se le cachera pas, on est en 2021, puis les gens ont l'impression que, bon, ben, quand tu es à gauche, tu penses à l'environnement, puis
Ouais.
tu as ça à cœur, puis à droite, ben, dans le fond, on fait notre changement d'huile dans l'entrée, puis on vide ça dans la rue, là, tu sais.
À peu près ça. Fait que là, autrement dit, tes questions, c'est plus sur l'environnement d'abord, je vais te dire qu'on va être obligé de faire quelque chose. Et là, ça va peut-être surprendre puis choquer certaines personnes, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est en faveur du développement puis de l'exploitation de nos ressources naturelles. Puis ça ne changera pas parce que moi, j'ai toujours considéré que c'était très environnemental exploiter nos propres ressources plutôt que de les faire venir de l'autre bout du monde. Donc, ça, puis il n'y a pas un écolo qui a jamais réussi à me convaincre, puis noir sur blanc, puis de me prouver qu'au-delà des émotions, là, faire venir de l'essence, du pétrole de l'autre bout du monde là, par bateau, c'est plus environnemental que si on le creuse en dessous de nos pieds puis
Oui,
qu'on l'exploite.
À un moment donné, il va falloir qu'on le dise aussi, là, le pétrole, là, même si vous avez juste des chars électriques, il va en avoir encore parce que vous avez ouais. besoin de plastique. Vous l'avez vu dans la crise sanitaire, comment le plastique est important.
Les roues de vos vélos, là, il va falloir qu'il y ait du pétrole. Là, ouais, vos manteaux d'hiver, puis vos gaz, ça finira plus, là, vos cellulaires. Fait que l'affaire du... Ça, là, je pense qu'il va falloir mettre ça très clair. Ça, c'est beaucoup... Il y a beaucoup de belles émotions, mais pas beaucoup de rationnel dans le discours des écologistes à ce niveau-là. Cela étant dit, vous savez, la crise sanitaire, elle a affecté plus les jeunes, puis on s'est ramassé beaucoup avec un membership, avec des militants plus jeunes. Okay? Moi, j'ai fait de la politique longtemps, là, puis même à l'ADQ, on disait que c'était un parti jeune, mais je pense que le Parti conservateur du Québec, présentement, l'est tout autant, sinon plus. Je me rends compte que je suis vieux quand je leur parle d'environnement. Je suis conscient qu'ils ont un autre discours, ils ont une autre approche. Les gens très à droite puis plus vieux vont dire c'est parce qu'ils sont fait brainwasher par leur prof. Là. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils ont une préoccupation plus importante pour l'environnement. Puis moi, je ne suis pas contre l'environnement. Tu sais, moi, quand je vais à mon chalet, je ne veux pas que mon chalet, l'eau soit polluée. Je veux qu'il soit beau, mon chalet. Je veux pouvoir me baigner dans le lac. Puis ça ajoute de la valeur, puis ça ajoute à ma qualité de vie. Puis je veux que la forêt en arrière, je n'ai pas envie qu'il y ait des coupes à blanc. Je veux que quand je vais me promener dans le bois, c'est le fun. Puis je veux que les animaux vivent ben, là. Puis bon.
La réalité aussi d'être conservateur, c'est que le conservatisme naturel, c'est quelque chose qui, à la base, faire attention à ce qu'on possède, faire attention à ce qu'on a. Les droits de propriété aident souvent aussi la cause environnementale. Oui, les entreprises ont une responsabilité, c'est clair. Puis oui, ça prend peut-être un peu de coercition du gouvernement, mais écoute, pour avoir une tonne d'entrepreneurs que je connais bien, il n'y a personne qui veut détruire la planète. Là. Okay? Ça n'existe pas. Là. Il y avait une inconscience, une insouciance dans le temps. Ça n'existe plus, cette inconscience-là, cette insouciance-là. On veut faire mieux. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus que notre produit coûte 3 fois plus cher.
Non.
Donc, il y a un juste milieu à avoir. Je pense que ce n'est pas vrai que les conservateurs vont avoir un discours anti-environnemental. Je veux dire, c'est une étiquette qu'on s'est fait coller dans le front il y a longtemps. C'est juste que, dans ma perspective, c'est qu'on a plus tendance à utiliser les outils de marché pour arriver à nos fins que la grosse coercition.
C'est ouais. ça. Puis l'autre affaire, là, moi, là, je m'excuse, mais quand on dit on va passer des lois puis on va empêcher les entreprises de polluer de telle façon, ce qu'on fait, c'est pas qu'on empêche la pollution, c'est qu'on délocalise les entreprises. On ouais. déménage. Puis pensez pas que les normes environnementales en Inde et en Chine sont meilleures qu'au Québec, là. T'sais, revenez sur Terre. Là. Donc, il faut leur dire au contraire, quand on crée des emplois dans des domaines polluants au Québec, en raison de nos normes déjà existantes, on va polluer moins que... Plus on va en créer d'emplois au Québec, plus on va diminuer la pollution planétaire. Là. Fait qu'il faut, il faut avoir un discours qui dit que plus jamais on va permettre des lois d'être adoptées qui vont empêcher des entreprises de se développer au Québec puis des envoyer dans des législations moins réglementées. Ça, je pense qu'il va falloir revisiter ça. Mais il va falloir aussi... démontrer, puis ça, c'est tout ça le fardeau qu'on va avoir, puis la commission politique va devoir se pencher là-dessus dans le parti au cours des prochains mois. Qu'est-ce qu'on peut concrètement proposer, puis que ça va être palpable, qu'on va être capable d'améliorer l'environnement dans une économie de marché plus libre. Et ça, on va avoir des propositions concrètes à ce niveau-là, mais évidemment, les membres vont devoir les adopter au mois de novembre.
Comme par exemple, une taxe sur l'essence, as-tu réellement l'impression que ça aide l'environnement, ou ben non, c'est juste un déguisement pour... Parce que c'est ça, on dirait, qui est un peu frustrant quand tu es un peu plus à droite, c'est que tu te rends compte que l'environnement est un peu utilisé à toutes les sauces pour déguiser quelque chose de plus mesquin en arrière. Je veux dire, le but de la taxe sur l'essence, c'est pas que vous utilisiez moins vos automobiles, c'est d'avoir plus de revenus au gouvernement. Ce n'est que ça.
Puis en même comme temps, la taxe sur les télés, puis ouais. comme sa taxe sur... c'est quoi, mec, qui appelait ça? Ou la taxe des pneus, ou la taxe... Ils nous mettent toujours des taxes, toujours... C'est parce que la taxe verte est vendable. Les gauchistes sont très bons dans le marketing pour essayer de nous rentrer dans la gorge des taxes, alors qu'ils savent que si c'est juste le mot taxe, c'est moins populaire. Mais quand tu mets le mot vert, c'est comme le sucre que tu enrobes autour de l'aspirine, ça passe mieux. Donc, ils sont toujours en train de mettre d'utiliser l'environnement. Mais tu sais, il y a des questions qu'il faut qu'on se pose. Là, moi-même, je m'y pose les questions. Là, quand je vois les autos électriques, est-ce que vraiment, tu sais, on fait ça aussi, on n'a pas fait la démonstration. Là, les gens pensent que parce qu'une voiture électrique, tu pollues moins un instant. C'est quoi l'impact environnemental réel? Là? Puis comment qu'on peut, nous, en tant que Québécois, on a de l'électricité, puis, mais si effectivement il y a un bénéfice, bien, le marché va l'incorporer, va l'internaliser. Il faut faire confiance au marché pour ça, puis il faut faire confiance aux consommateurs plutôt que de faire confiance au gouvernement. Parce que les marchés puis les consommateurs ont été pas mal plus fidèles puis prévisibles dans le passé que n'importe quel gouvernement.
Je pense qu'au niveau de l'environnement, Yann et Éric, je pense qu'il faut ramener dans le discours des choses très, très concrètes au lieu d'être juste dans le signalement de vertu puis les trucs très... Tu sais, je veux dire, l'idée, par exemple, que bon, là, on construit un tramway, ça va faire moins de GES. Tout. Il n'y a personne qui nous est arrivé avec quelque chose de concret, de dire, ben oui, mais voici l'impact que ça va avoir. Par contre, quand j'entends dire que Montréal, Trois-Rivières, Québec vide ses eaux usées dans le fleuve, ça, moi, ça me dit que c'est peut-être pas une bonne affaire d'un point de vue environnemental. Puis ouais. Ça, c'est de quoi de concret sur lequel on peut agir. Le gouvernement qui utilise l'argent public pour aller construire une cimenterie à Port-Daniel, ça aussi, je suis pas sûr de.
Mais tu sais, quand tu coupes des rubans pour annoncer à 800 travailleurs que tu vas les embaucher à 100 000 par année, normalement, tu vas chercher plus de votes que quand tu parles du monde de leurs égouts. Puis c'est pas winner parler de ça. Non, ouais. mais je m'excuse pour ceux qui nous écoutent, là, parce que c'est un peu dégueu, là, mais c'est justement, les politiciens n'aiment pas ça parler. Pourquoi vous pensez que notre système il est aussi pourri? Parce qu'il n'y a pas d'élection qui se gagne avec ça. Construire une autoroute, ça, c'est bon. Construire quelque chose, un tramway, puis d'engager du monde, puis donner une subvention de business, ça, tu vas chercher des votes. Mais dire que tu vas traiter des eaux usées, là, mais pas personne qui se dit, là, qui se pose des questions sur quel traitement tu vas utiliser, puis qui vote en fonction de quelle façon ils vont traiter les eaux usées. Il n'y a personne qui vote là-dessus. Là.
Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, par exemple, de, au lieu d'y aller toujours avec l'idée de la taxe, est-ce qu'on ne pourrait pas y aller juste à l'inverse? Par exemple, on établit une série de produits qu'on considère comme écologiques ou verts. Par exemple, mettons qu'on établit que c'est la voiture électrique. Bon, au lieu de donner des subventions, on dit juste qu'il n'y a pas de taxe de vente sur une voiture électrique. Il pourrait avoir plein d'autres produits comme ça. Au lieu de toujours y aller avec le bâton, on peut y aller justement en enlevant le bâton, là, en donnant justement un incitatif. Le gouvernement, il veut vous inciter à consommer des choses plus vertes, ben voici ce qui est vert, puis voici tous ces produits-là. Maintenant, il n'y a plus de TVQ dessus.
C'est sûr que c'est tout. Moi, j'aime mieux ça. Là. Personnellement, j'aime toujours mieux quand le gouvernement dit qu'on va enlever une taxe plutôt qu'en ajouter une. À la base, je pense que le concept n'est pas fou.
Éric, tu n'es pas le seul chef de parti politique qui aura à débattre d'agriculture. On sait, par exemple, Maxime Bernier au fédéral essayer de gagner la chefferie conservateure avec ses attaques envers la gestion de l'offre. Finalement, il s'est complètement antagonisé l'UPA, qui ont juste été à prendre des cartes de membres pour faire élire Andrew Scheer à l'époque. Oui. Toi, tu es chef de parti, tu n'auras pas nécessairement le même problème. Mais est-ce que, justement, cette gestion de l'offre-là, on sait, c'est un des aspects syndicaux au Québec les plus défendus bec et ongles qu'il n'y a pas, là, chialer un peu contre la gestion de l'offre sur le lait ou pire sur le poulet, puis on parlera de l'état de vos pneus dans une couple de semaines, là, comment ça l'a été. Est-ce que c'est le genre de sujet qui est trop chaud pour s'attaquer, que ça ne vaut pas la peine un premier mandat, ou même c'est quelque chose que tu ne toucheras jamais, ou c'est quelque chose que
tu... Je ne toucherai jamais pour une simple raison, Yann, c'est que c'est un enjeu fédéral. Au niveau légal, là, c'est le gouvernement du Canada qui légifère en cette matière-là, puis qui intervient, puis qui négocie nos traités commerciaux. Donc, c'est pas... Moi, j'en ai déjà plein mes bottes là, avec le système de santé, le système d'éducation, l'aide sociale, la dette publique au Québec, puis les... écoute, des politiques, là, puis des ministères, on en a trop là, à gérer au Québec. Là, c'est pas... Il nous manque pas de chantiers sur lesquels travailler. La question de la gestion de l'offre, c'est un débat intéressant, mais qui se passe sur un autre palier de gouvernement. On n'arrête pas de dire au gouvernement fédéral qu'on veut qu'il se mêle de ses affaires, mais il ne faudrait pas commencer à faire exactement ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire de se mêler des affaires des autres. Moi, j'ai intention de parler beaucoup de santé. Je sais qu'il y a des propositions que je vais faire qui ne feront pas l'affaire du gouvernement fédéral. J'espère que les élus fédéraux vont avoir la décence de se mêler de leurs affaires et qu'ils ne commenceront pas à nous dire qu'à cause de la loi canadienne sur la santé, on n'a pas le droit de faire ci et on n'a pas le droit de faire ça. Moi, je pense que si on veut que le pays fonctionne bien puis le Canada fonctionne bien, il va falloir commencer par respecter la loi fondamentale du Canada, c'est-à-dire notre Constitution, puis respecter nos champs de compétences qui en font partie.
Fait qu'à ce moment-là, en agriculture, ton approche serait un peu plus dirigée vers où exactement?
Ben écoute, on n'a pas encore développé la politique. J'ai rencontré des agriculteurs en Beauce la semaine passée. On a mis en place une table de réflexion là, avec la commission politique, encore une fois, qui est André Valiquette, notre président, qui va chapeauter ça. Et on va arriver avec des propositions concrètes au mois de novembre. Mais c'est drôle, là. Puis moi, je ne suis pas un protectionniste. Je suis un libre-échangiste, je vous le dis tout de suite. Cela étant dit, la crise a quand même fait qu'il faut se poser des questions. Parce qu'on a vu comment les États autour peuvent être protectionnistes, comment les gouvernements, c'est pas long que le réflexe de fermer frontières est vite. Moi, je pensais jamais vivre dans un pays où les frontières fermeraient comme on l'a fermé. Pire que ça, on a même fermé d'une région à l'autre. Je peux même plus aller à mon chalet à un moment donné, là. Donc, on peut pas faire confiance au gouvernement pour s'assurer qu'on va avoir la liberté de circuler puis d'échanger. Et s'il y a quelque chose de fondamental, c'est ce qu'on mange. Et il va falloir que notre autosuffisance alimentaire, là, il va falloir qu'on ait une réflexion là-dessus. Il va falloir qu'on s'assure d'être un peu plus autonome. Puis là, je sais que vous allez me dire que je suis paranoïaque, puis je suis fou là, que de penser que les frontières peuvent fermer. Là, mais on vient de le voir. Là. Si je vous avais dit ça il y a 2 ans, peut-être que même moi, j'aurais pensé que c'était débile. Là, mais dans le contexte actuel d'aujourd'hui, je pense que... l'autosuffisance alimentaire, en tout cas un minimum, là, puis qu'on ait une production locale plus diversifiée et importante, je pense que ça va être au cœur de nos engagements.
Comme signal envoyé côté de montrer aux autres que tu es libre-échangiste, serais-tu prêt à aller dans une direction comme dire vous savez, vous n'avez pas le droit d'importer du vin au Québec en provenance d'une autre province canadienne? C'est évidemment le gouvernement du Québec qui a mis ce genre de loi-là en place.
Les barrières interprovinciales.
Est-ce que ces foutues barrières interprovinciales-là, c'est quelque chose que tu aimerais faire débarquer éventuellement? Ça enverrait quand même un beau signal.
Mais tu sais que j'ai écrit même un livre là-dessus, la SAQ pousse le bouchon, puis ça, c'est un des éléments. Mais je pense que pour le marché de l'alcool puis des vins, il va falloir que ce soit plus que les barrières interprovinciales qu'on revoit. Il va falloir revoir aussi notre façon de vendre l'alcool aux Québécois puis la façon dont on les taxe avec ça. Là. Mais tu as raison, c'est complètement ridicule. Puis d'autant plus que le Québec est le pire hein, de toutes les provinces canadiennes. Là, on est les pires, les plus protectionnistes. Puis on ne fait pas ça pour votre bien parce qu'on a peur que la bouteille de vin de l'Ontario elle soit empoisonnée puis que vous allez crever. Là. J'espère qu'il n'y a personne qui pense ça. Ou parce que vous allez acheter une caisse de bière au Nouveau-Brunswick quand vous traversez la frontière, c'est dangereux. Là. C'est, ça n'a pas rapport. Là. La seule et unique raison pourquoi le gouvernement fait ça, c'est parce qu'il veut continuer à presser le citron. Parce que les Québécois sont les pires citrons du continent. C'est-à-dire que c'est nous autres qu'il faut qu'on donne le plus de jus au gouvernement par citron. Parce que c'est lui qui vient chercher le plus d'argent dans notre portefeuille. Donc, la seule et unique raison, c'est qu'il veut protéger son marché de citron pour pas qu'il y ait du monde qui aille se faire presser ailleurs et qu'il lui reste plus de jus dans le citron. Là. L'intervention de l'État dans le domaine de l'alcool. Là.
On a un auditeur sur Patreon, Dominique, qui dit, est-ce que le gouvernement, il dit comment on fait pour que le gouvernement soit moins déconnecté de la réalité, comme par exemple, il dit avec les subventions aux entreprises. Et disons, le gouvernement passe ses journées à faire des posts là, sur Twitter, Facebook, disant « Ah, ben là, M. Fitzgibbon, ben là, dans le temps, c'était lui, ils ont donné à cause de sa subvention, ben là, on est fiers d'annoncer la création de 400 emplois à telle place. » Mais il dit « En même temps, tu lis les médias chaque jour, puis toute la journée, on te parle de gens qui ont de la misère à se trouver de la main-d'œuvre. » Il dit « Est-ce que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre ou de difficulté pour les employeurs à trouver des employés, pourquoi est-ce qu'on s'entête à aller dans cette affaire-là, aller essayer de créer artificiellement des nouvelles jobs partout s'il n'y a pas de travailleurs?
Faut penser d'abord, là, même ce que tu viens de dire, là, c'est pas à cause de la pénurie de main-d'œuvre qu'il faut éliminer les subventions aux entreprises. C'est parce que c'est pas bon, les subventions aux entreprises, peu importe le contexte, qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre ou qu'il y a un taux de chômage très élevé. Parce que ce que ça fait, c'est que ça tue de l'emploi plus que ça n'en crée. Puis c'est sûr que M. Fitzgibbon, quand il coupe des rubans et qu'il donne des chèques à ses amis, lui, il annonce des créations d'emplois. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est où il est allé chercher ces millions-là, puis ces centaines de millions-là, puis combien de PME ou d'entreprises il a tué puis qui a condamné au chômage ou à la faillite. Ça, il n'en parle pas. C'est toujours comme Bastia disait, c'est ce qu'on voit par rapport à ce qu'on ne voit pas. Là. Et M. Fitzgibbon, malheureusement, il n'est pas disparu. Je veux juste mal. J'aurais aimé ça, moi aussi, qu'il démissionne et qu'on ne le revoie plus. Mais j'ai peur que François Legault attend qu'on soit en vacances au mois de juillet sur le bord de la piscine avec notre bouteille de bière entre les deux jambes puis qu'on pense à d'autres choses que de la politique pour nous annoncer qu'il va le réintégrer dans le Conseil des ministres. D'ailleurs, il l'a dit, là, qu'il se prépare à ça. Puis M. Fitzgibbon, entre-temps, va s'être trouvé un ami qui va avoir, entre guillemets, acheté ses parts dans ses compagnies litigieuses et il va refaire son retour au Conseil des ministres. Donc, puis de toute façon, si ce n'est pas Fitzgibbon, ça va être un autre. Là. François Legault, c'est un étatiste. C'est un gars qui croit au modèle québécois de distribution de subventions, d'acheter des votes en donnant de l'argent à des entreprises choisies et favorisées par le régime. Puis ça ne changera pas. Je veux dire, il faisait au PQ, puis il fait encore, puis il va encore le faire avec ou sans Fitzgibbon. Là.
Avec le Parti québécois, Éric, on savait qu'un bon immigrant, ça parlait français. Oui. Avec la CAQ, on sait qu'un bon immigrant, ça gagne 56 000. Pour Éric Duhaime, c'est quoi un bon immigrant?
C'est une personne qui travaille. C'est une personne qui se lève le matin, qui vraiment part avec sa boîte à lunch, puis qui revient avec un chèque à la fin de la semaine, puis qui est fier de nourrir sa famille et son monde. C'est, pour moi, c'est pas juste un bon immigrant, c'est un bon Québécois tout court. Puis il y a pas. J'ai trouvé ça particulièrement odieux. Puis tu sais, François Legault, là, c'est pas un gars qui vient, là, c'est pas un snob, là, c'est pas un gars qui vient de la haute société puis t'as l'impression qu'il regarde tout le monde de haut depuis qu'il est au monde. Là. Je pensais que c'était un gars qui était issu du peuple puis qui était comme tout le monde. Puis quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais là, il est rendu dans le monde de Fitzgibbon. Là. Il est complètement déconnecté. Là. Penser que les gens qui gagnent moins de 55 000 $ par année, c'est des gens qui sont un problème. C'est carrément le mot qu'il a utilisé, là. Ça, tu sais, la personne qui nous écoute puis qui gagne 43 000 ou qui gagne 25 000, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ces gens-là, là, ils travaillent. Là. Je ne sais pas combien François Legault paye la femme de ménage qui est chez eux, ou son jardinier, ou son chauffeur, ou son c'est le gars qui répare son char, ou les. Je veux dire, on pourrait prendre le gars qui coupe les cheveux. Est-ce que ces gens-là, c'est des problèmes pour lui? C'est complet. Juste le fait qu'ils disent ça, là, c'est. Ça témoigne de ce qu'ils pensent profondément des gens, puis comment ce gars-là n'est pas là pour les bonnes raisons.
Par rapport à l'immigration, le débat souvent entre les libéraux et la CAQ a toujours été les seuils. Donc, les libéraux voulaient augmenter le seuil d'immigration, la CAQ voulait le baisser. C'est-tu normal qu'on ait des seuils d'immigration au Québec?
Non. D'ailleurs, je l'ai dit, là, en matière d'immigration, nous autres, on n'embarquera pas dans le plus ou moins, là, puis commencer à crier, ça en prend plus, puis ça en prend moins. De toute façon, vous l'avez vu, là, la CAQ, ils nous avaient dit qu'ils baisseraient les seuils d'immigration, puis ils ont monté. Fait que c'est n'importe quoi, l'affaire des seuils. Moi, je pense qu'un immigrant qui est une immigration réussie, c'est une immigration où le pays d'accueil profite de la personne, entre guillemets, là, dans le sens où elle travaille puis elle joue un rôle actif dans la société. Puis l'immigrant, lui, il améliore son sort puis celui de sa famille. C'est ça, une immigration réussie. Quand quelqu'un vient ici puis se ramasse sur le chômage, les Québécois ne sont pas gagnants puis l'immigrant n'est pas gagnant.
Et que la donc, question à poser à ce moment-là, c'est qui est la meilleure personne pour déterminer l'immigrant qui doit venir ici? Est-ce que c'est l'entreprise privée qui recrute elle-même ou c'est le fonctionnaire du gouvernement?
Bon. Là, tu viens de poser une des bonnes questions. Là. D'abord, c'est quoi le contexte global du marché de l'emploi? C'est sûr que si on est dans une crise et qu'il y a un taux de chômage à 15 % accueillir plus d'immigrants, c'est peut-être pas la pression, ne sera pas la même que si on est en pénurie de main-d'œuvre comme on l'était il y a quelques mois. Fait que c'est, il va falloir qu'on. Moi, je pense que le nombre d'immigrants qui viennent est en fonction de la demande. Il faut que ça soit l'offre et la demande, puis l'offre et la demande, c'est ce que les entreprises ont besoin. Et quand les entreprises n'ont plus de travail à offrir puis qu'au contraire, il y a beaucoup de chômeurs, bien, il va falloir qu'on réduise nos seuils d'immigration. Puis quand on s'assurchauffe puis qu'on a besoin des gens pour prendre soin de nos aînés ou pour aller dans nos champs, bien, il va falloir les accueillir à bras ouverts. Fait que moi, je pense que c'est le marché qui doit déterminer ça bien davantage que des considérations politiques.
Traditionnellement, au Québec, on a toujours eu, je pense, c'est quoi, c'est 60 ou 70 % des immigrants que c'est nous qui choisissons versus ce que le fédéral impose. Puis il y a toujours eu un peu cette mentalité-là qu'il fallait privilégier des gens qui parlent d'abord français pour venir ici pour toutes sortes de raisons. Là, le PQ a toujours tapé assez fort sur ce clou-là. Mais est-ce qu'en faisant ça, on ne se prive pas de gens qui sont énormément travaillants, qui voudraient venir, qui sont, je ne sais pas, en Amérique du Sud, Amérique centrale ou même des pays européens? Parce que moi, je l'ai expérimenté sur différents milieux de travail. Une des meilleures places pour apprendre le français, c'est en milieu de travail. Pas nécessairement, je veux dire, moi, j'ai travaillé avec quelqu'un qui venait du Venezuela. Il est arrivé, il ne parlait pas un mot de français. Puis un an après, il avait presque notre accent.
Tu as raison. Là. D'abord, moi, premièrement, je suis un défenseur du français. Là. Vous savez, je suis nationaliste. Pour moi, la spécificité québécoise, c'est d'abord notre langue, puis ça fait partie profondément de notre identité puis notre enracinement. Et c'est fondamental qu'on focalise sur la langue. Cela étant dit, quand on prend ça comme critère de sélection pour les immigrants, je ne me demande pas si on ne se nuit pas. Et la langue, on l'a vu, puis là, je ne veux pas revenir avec le dossier des accommodements raisonnables, mais la culture puis l'identité québécoise, c'est pas juste, par exemple, le fait français. Il y a beaucoup d'autres valeurs communes qu'on a. Les Latino-Américains, quand ils arrivent ici, le premier, ils ont déjà une langue qui est très similaire à la nôtre. Leur temps d'apprentissage de notre langue est beaucoup plus rapide qu'à peu près n'importe quelle autre région du monde. Ils partagent notre religion. C'est eux autres qui remplissent nos églises en passant, parce que nous autres, on n'y va plus. Donc, le choc culturel ou religieux est beaucoup moins sévère. Et puis ils sont extraordinairement travaillants. Là, on a juste à se promener dans les champs autour d'ici à ce temps-ci de l'année pour s'en rendre compte. Donc, je pense que ça aussi, il faut prendre ça en considération quand on prend des positions comme celle-là. Je comprends que politiquement, il y avait un débat linguistique important, puis qu'on s'est beaucoup divisé là-dessus, puis que ça a été un facteur. Puis, il ne faut pas se le cacher, là. Il y avait des considérations ultra-politiques derrière ça. Là. Mm-hmm. Le Parti québécois voulait plus de francophones puis moins d'immigrants à la limite même, alors que les libéraux voulaient de l'immigration n'importe où, puis en le plus possible, puis qu'ils puissent voter le plus rapidement possible. Puis il y avait des considérations très, très, très politiques. Puis, si vous regardez la carte des circonscriptions de Montréal, vous voyez que le rouge foncé, la tache libérale, elle s'est étendue dans quelques circonscriptions. Puis il y a des circonscriptions où il y avait des luttes serrées historiquement, où c'est devenu des châteaux forts libéraux qu'il n'y a à peu près aucun autre parti va pouvoir gagner dans un avenir prévisible. Donc, ça a été très, très, très politisé, mais il va falloir qu'à un moment donné, on regarde ça d'une autre façon. Puis le travail, c'est certainement l'endroit où l'apprentissage de la langue se fait le plus rapidement possible. Moi, j'ai eu la chance de baragouiner en arabe parce que je travaillais avec des arabophones. J'ai appris bien plus que ces bancs d'école. Oui, ça peut, pour la base, des bancs d'école peuvent servir. Mais la meilleure façon, c'est pas juste la langue, c'est l'intégration à la société québécoise. On voit juste la langue, là, mais être Québécois, c'est pas juste parler français. Là. On a des valeurs communes, quand tu es dans une entreprise, veux pas, tu as un objectif commun, tu as un résultat à atteindre en équipe. Puis ça fait partie aussi de l'intégration à la société d'accueil.
Oui, puis des fois, les Québécois, on a tendance à oublier, j'ai l'impression que c'est un privilège vivre au Québec, vivre au Canada, dans le sens que oui, on a un style de vie qui est très confortable. Puis on est rendu au point où est-ce qu'effectivement, on lève le nez sur certains jobs. Par contre, pour un immigrant d'Amérique du Sud, par exemple, venir s'installer ici, c'est une augmentation de son niveau de vie qui est tout simplement impressionnante. Tant mieux s'il reste ici à l'année, mais même quand ils retournent dans leur pays, s'ils viennent juste quelques mois puis ils retournent, c'est des augmentations de niveau de vie qui sont impressionnantes pour leur famille. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il faut un peu arrêter d'être égoïste puis d'être protectionniste de ce côté-là puis d'arrêter tout simplement de tout vouloir garder pour nous. Je pense qu'on a un beau territoire à partager. On a besoin de gens pour nous aider, justement, parce que notre société a changé au fil du temps. Les gens, maintenant, veulent se diriger de plus en plus vers l'économie du savoir. Le système d'éducation qu'on a mis en place envoie les gens vers l'économie du savoir, mais on oublie qu'on a encore besoin de travaux manuels.
Mais Yann, n'oublie pas l'aspect chômage. Là. Puis, c'est pour ça que moi, je pense que c'est bien important que les seuils soient en conséquence. Puis, en fait, moi, je ne sais même pas pourquoi on met un seuil. On devrait juste dire on va prendre le nombre d'immigrants que notre marché de l'emploi est capable d'intégrer. Parce que, tu sais, quand on parle de racisme ou d'intolérance ou tout ça, là, souvent, qu'est-ce qui nourrit ça? les gens s'imaginent qu'il y a des immigrants qui viennent ici pour profiter de nos programmes sociaux. C'est beaucoup l'intervention de l'État hein, qui cause les frictions entre les communautés. Parce que ces gens-là viennent ici, puis ils disent, gars, il vient d'arriver, il n'a jamais payé une scène d'impôt, mais ça fait 10 générations qu'on est ici, on a bâti le pays. Eux autres, ils arrivent, puis là, ils se mettent sur le BS, puis là, ils profitent du système, puis ils exploitent le système, puis ils ont un système de santé gratis, puis là, ils mettent des enfants au monde, puis ils envoient dans les garderies subventionnées. Puis... Fait que c'est tous des programmes gouvernementaux. Non, mais c'est ça. Le problème de l'intolérance, il vient beaucoup de l'intervention de l'État. Puis il faut mettre ça en perspective, puis il faut dire, regarde, si la personne qui vient ici contribue, moi, je suis convaincu que ça va ouvrir les horizons, ça va promouvoir la tolérance, alors que si on en accueille trop, puis notre marché de l'emploi n'est pas capable de les intégrer, on va alimenter le racisme, la division puis l'intolérance.
Dans le fond, ce que tu dis, c'est que la méthode libérale d'en accueillir à tout rompre pour augmenter les votes dans le futur, c'est une mauvaise méthode. La méthode péquiste d'en avoir le moins possible pour conserver le vote francophone, c'est une mauvaise méthode. Sauf que si on remet les clés de l'immigration un peu plus aux employeurs, on leur facilite la vie pour aller recruter eux-mêmes, bien naturellement, l'employeur va recruter selon ses besoins. Donc, ça va simplifier un peu tout ça, là.
Puis l'immigrant qui va arriver ici va contribuer positivement à la société. Puis le voisin que tu vas regarder qui vient d'arriver, tu n'auras pas l'impression qu'il profite du système. Tu auras l'impression qu'il contribue. Pas, tu n'auras pas l'impression qu'il contribue au système.
Parce qu'on ne se le cachera pas, il y a un déficit aussi migratoire au Québec. Je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais mettons qu'il rentre 40 000 personnes dans une année. Bien, on sait que de ces 40 000-là, quelques années après, il y en a peut-être le tiers ou même des fois la moitié dans certaines années qui s'en vont dans d'autres provinces. Pourquoi ils le font? Mais il y a sûrement des raisons à ça. Quelles sont ces raisons-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre rétention, finalement? Parce que c'est pas tout d'accueillir des gens, mais si les gens arrivent, font finalement, c'est pas ça que je pensais, puis je sac mon camp, ben, est-ce que c'est la non-reconnaissance de certains diplômes? Est-ce que il y a plein de choses, je pense, qui sont à réfléchir par rapport
ça,
à ça.
C'est une autre forme de protectionnisme en passant. Là. C'est facile de dire tu n'as pas les qualifications pour travailler ici. T'sais. On ne veut même pas leur faire faire une propédeutique là, ou une mise à niveau. On veut carrément les exclure pour qu'ils ne travaillent pas dans leur domaine de compétences pour se garder les privilèges. C'est une espèce de syndicalisme corporatiste. Là. C'est pas c'est assez minable comme comportement, ça aussi. Là. Honnêtement, le gouvernement du Québec n'a pas tous les contrôles là-dessus. Il y a des éléments aussi au niveau fédéral, là, dépendamment de quel ordre professionnel on parle.
Si on parle de stratégie un peu, une question qui est revenue quand même assez souvent, puis je sais que c'est quelque chose sur lequel Adrien était souvent questionné. Est-ce que c'est mieux d'essayer de faire élire des gens puis de mettre toute son énergie dans certains comtés qui sont ciblés ou d'y aller avec une stratégie plus globale de présenter 125 candidats, même dans des comtés où tu parlais tout à l'heure des châteaux forts libérales. Dans le temps, on aurait dit châteaux forts péquistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus. à part peut-être le comté de Pascal Bérubé en Gaspésie. Mais est-ce que c'est quoi ta vision par rapport à cet enjeu-là?
Bien, c'est un beau dilemme parce que là, quand tu es rendu là, c'est parce que tu es rendu dans la zone payante. Puis là, je regarde les sondages actuellement, on est en croissance, on n'est pas encore entré dans la zone payante. OK, on approche la zone payante. La zone payante, pour moi, c'est la zone où on peut commencer à penser à faire élire des députés. Dans la région de Québec, on est déjà deuxième. Ça, c'est exceptionnel. Là. On a dépassé trois des quatre partis représentés à l'Assemblée nationale après un mois et demi. Je ne me souviens pas d'avoir vu ça souvent en politique québécoise, un parti politique qui monte de façon aussi importante et aussi vite. Là. Et fait que, historiquement, la réponse à ta question est en deux volets, parce que historiquement, il aurait fallu dire qu'il faut concentrer tous nos œufs dans le même panier et essayer de gagner un, deux, trois députés puis aller un à la fois. Un peu comme Québec solidaire a fait ça. Hein. Rappelez-vous, Amir Kadir a gagné en premier. Après ça, ça a été Françoise David. Puis après ça, ils se sont multipliés. Puis là, ils sont rendus, ils en ont même à Québec. Là. Donc, ça, c'est une stratégie. Mais depuis ce temps-là, les règles de financement des partis ont changé. Parce que l'argent, c'est aussi le nerf de la guerre. Puis la façon dont les partis politiques sont financés maintenant, c'est que les partis reçoivent énormément d'argent par vote que vous leur donnez. Là. C'est à peu près quoi? 2 piastres pour un petit peu plus que 2 piastres par année, plus c'est sa double année électorale. Fait qu'au total, ça doit faire pas loin de 15 piastres. Quand vous allez voter pour un parti, là, le parti politique, il fait 15 piastres dans ses coffres pendant le mandat. Et donc, des milliers de votes qui sont dans des circonscriptions où, de toute façon, tu perds, sont importants. parce que c'est ça qui va financer le parti à moyen et à long terme, qui va te permettre d'embaucher du monde, qui va te permettre de faire croître le parti encore davantage. Donc, tu ne peux pas juste concentrer toutes tes œufs dans le même panier. C'est pour ça que vous voyez tous les partis, puis on va le faire aussi, là, les partis présentent des candidats dans toutes les circonscriptions, même quand ils savent qu'ils ne feront pratiquement pas de vote. Et c'est pour ça qu'ils vont faire la même campagne, puis mettre des affiches, puis s'assurer de faire sortir minimalement le vote à la grandeur du territoire. Fait que oui, il faut en faire élire. Puis moi, je ne te le cacherai pas, là, ma première priorité, c'est quand je me suis présenté, là, même mon équipe le sait, là, je me disais, la première chose, il faut que je m'assure que je me fasse élire. Là. Il faut que, comme chef de parti, ton premier devoir, c'est de te ramasser à l'Assemblée nationale, parce que sinon, ça va aller mal en anti-pépère. Il faut que tu aies après ça un pourcentage de vote assez important pour être capable d'avoir une équipe, d'embaucher du monde qui vont faire de la recherche, qui vont faire de l'organisation, bon, et qui vont faire des communications. Fait qu'il faut, il faut travailler sur les deux. Fait qu'on va, oui, on va concentrer évidemment dans nos châteaux forts, mais on va aussi s'assurer d'être présent sur l'ensemble du territoire québécois.
Mm-hmm. Oui, je pense que c'est. Je pense que, comme tu dis, avec les règles de financement public, ça change un peu la.
Ben oui, la ça stratégie. Change la donne.
Ouais, ouais, je pense que c'est vrai qu'on va te libérer à partir de ce moment-ci. On a fait quand même un tour d'une tonne de questions. Ça fait plus qu'une heure qu'on te parle. Tu as été super généreux. Fait que, sérieusement,
ça fait plaisir. Merci les gars. Puis là, ben regarde, on parle de financement des partis politiques. Je peux-tu plugger? Là? Vous pouvez aller sur le site du DGEQ. Oui. Puis là, vous pouvez contribuer si vous voulez. Non, mais je le dis parce que on dit tout le temps au monde, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Puis c'est sûr que c'est pas tout le monde qui veut être candidat, puis c'est pas tout le monde qui veut faire de l'organisation. Puis la politique a changé. Hein. Bizarrement, on n'a plus besoin d'autant, ça, faut le dire, on n'a plus besoin autant de bénévoles qu'à une certaine époque. Moi, je vous voyez les cheveux blancs, là, je suis vieux. Quand on faisait des élections il y a 20-30 ans, ça prenait des centaines de téléphonistes. Je vous viens, c'est pas, là, on louait des locaux, puis il y avait on mettait des tables, puis là, le gars de Bell venait, puis il mettait des fils partout, puis là, il y avait des téléphones à roulettes, puis là, les petites madames s'installaient avec des listes, puis avec le crayon à mine, puis ça téléphonait du matin au soir. On en avait, là, c'était plein, des salles remplies, là. Au lieu d'aller jouer au bingo, ce mois-là, ils se mettaient tous à faire des téléphones pour appeler le monde, puis les pointer, puis leur demander pour qui ils allaient voter, puis les faire sortir pour aller voter. Aujourd'hui, grâce à une nouvelle technologie, là, comme dans tout type d'entreprise, on est capable de réduire notre main-d'œuvre et d'avoir un produit de meilleure qualité. Donc, on est capable, avec des outils, de communiquer avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus rapidement, puis on le fait. Donc, le bénévolat, entre guillemets, il est moins important. Mais les technologies, ils ont un bon côté, mais le mauvais côté, c'est que ça coûte cher. Puis, fait qu'il faut, il faut financer ça, il faut avoir une infrastructure, il faut qu'on fasse les campagnes pour rejoindre les gens, ces réseaux sociaux, pour avoir des courriels, pour avoir des numéros de cellulaire. Donc, on a toute une infrastructure qu'il faut développer. Puis, une façon concrète d'aider, bien, c'est de mettre la main dans sa poche. Puis, quand on fait une contribution à un parti politique, le gouvernement nous donne le même montant. Ça veut dire, mettons, vous donnez 10$, le gouvernement nous donne 10$. Nous autres, présentement, on prend ça, on met ça en réserve, et quand arrive l'élection, on le dépense. Mais le gouvernement, quand tu le dépenses, il te rembourse la moitié de tes dépenses. Fait que là, votre 20$ devient 40$. Ça veut dire que si vous mettez 10$ aujourd'hui dans le Parti conservateur du Québec, en élection, on va défendre 40$, on va dépenser 40$ pour faire élire un député conservateur chez vous. C'est bon, hein, mes mathématiques, je ne suis pas pire.
Ouais, c'est pas pire.
Il n'y a pas juste toi.
Mais ça coûte cher, Éric, mais tout ça, en plus, ça fait que ça modernise un peu l'image du parti. C'est peut-être une note en se laissant. Je sais que vous avez refait votre logo. Toi, tu es très présent. Je vais le faire apparaître à l'écran pour les gens qui ne l'ont pas vu. Toi, tu es sur Facebook, les lives, YouTube, tout ça, ça contribue, je pense, parce qu'on ne se le cachera pas. Il y a peut-être historiquement un peu un blocage chez les gens qui sont plus jeunes. Tu lui dis conservateur dans le tête, c'est un monsieur avec des bas blancs dans des sandales qui est contre l'avortement. T'sais. Donc, je pense que c'est important, là, tout l'effort que tu mets là-dessus, de justement faire une imagerie peut-être un peu plus belle, un peu plus soignée, être plus présent pour aller rejoindre les jeunes. Parce que ça a été le succès d'un parti, je pense, comme Québec solidaire, là, d'aller rejoindre les jeunes. Ils ont une imagerie un peu plus funky, des trucs. T'sais, c'est plus moderne, plus...
Oui, plus à jour, plus actuel, puis... C'est drôle que tu te parles de Québec solidaire parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Puis, tu sais, la grosse nouvelle ces temps-ci, là, c'est que le Parti québécois est en train de disparaître. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent, même le chef du Parti québécois lui-même en parlait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Là, puis, ils ont encore perdu un député la semaine passée. Puis, c'est vraiment l'hécatombe carrément.
Ah, ils rentrent toute la gang d'une Dodge Caravan maintenant. Là.
C'est ça. Puis là, après ça, mais ce qu'on parle moins, parce qu'on le voit moins dans les sondages, parce qu'ils ont encore le vote anglophone puis allophone, mais c'est que le Parti libéral aussi est en train de disparaître dans plusieurs communautés francophones. Donc, tu sais, un endroit comme à Québec, présentement, ils sont à 5 % des intentions de vote. Le Parti libéral, c'est pire que le Parti québécois, là. Et donc, j'ai l'impression, moi, que le prochain débat, puis la jeunesse est rendue là. Les vrais débats d'idées, d'enjeux, c'est entre la gauche et la droite. Là, on a un parti qui est une espèce de coalition, c'est tout, n'importe quoi et son contraire, puis tout basé sur un chef. Mais ce chef-là, un, il n'est pas éternel. Puis deuxièmement, à un moment donné, les incohérences commencent à apparaître. Puis il va y avoir un parti qui va être un peu plus à la droite, ça va être le Parti conservateur, puis il va y avoir un parti un peu plus à gauche, ça va être Québec solidaire. Québec solidaire est en train de se centrer, là, ils viennent un petit peu plus gauche mainstream, là, parce que tranquillement, ils ont de plus en plus d'anciens péquistes ou d'anciens libéraux ou même des caquistes qui vont aller les rejoindre, puis ils vont... je pense que c'est vers là où on s'en va. Puis c'est peut-être pas un hasard qu'on ait les deux partis qui sont les plus présents sur les réseaux sociaux puis qui utilisent le plus les nouvelles technologies, parce qu'on est peut-être les deux partis en émergence dans la nouvelle génération. J'ai l'impression que les péquistes puis les libéraux, écoutez, regardez ces réseaux sociaux, le poids qu'ils ont, ça n'a pas de sens. Il n'y a personne là, qui les suit.
T'as raison, le poids médiatique sur Facebook, dans l'ordre, c'est François Legault, le deuxième, c'est toi, le troisième, c'est Catherine Dorion. C'est la réalité d'aujourd'hui.
Je ne cherchais pas Dominique Anglade, puis Pierre, je ne sais pas son nom, là, vous ne les retrouverez pas, là, c'est pas... écoute, sérieusement, attends, c'est Pierre...
Paul Saint-Pierre, pardon.
Paul Saint-Pierre, Plamondon, excusez-moi. Ça n'a pas de sens que les statistiques sortent comme ça, le casque, puis on... Les députés à l'Assemblée nationale ne sont pas capables d'interpeller les gens sur ces réseaux sociaux. Moi, ça, c'est une preuve. Tu sais, quand on parle qu'ils sont déconnectés, là, je pense que ça c'est on le mesure maintenant.
Fait que tu ne feras pas de vidéo de Star Wars pour des affaires de même, pour essayer d'aller séduire les gens. Non,
non, c'est pas dans mon style. Je te dis pas que j'en ferai pas un moment donné si on n'a pas le choix. Là, mais ça fait... Non, mais je suis un gars qui... Je suis pas pogné, là, j'ai pas un manche à balai, vous savez, là, mais en même temps, je me demande, il y a des affaires que je pense pas que c'est nécessaire de faire. Là. Fait que je vais rester moi-même. Je pense que c'est ça que les gens apprécient. Puis que je ne suis pas trop pogné, mais en même temps, je ne suis pas non plus, je suis pas prêt à faire n'importe quoi et à me déguiser pour attirer des votes.
Ben, je pense que c'était une bonne conclusion. Merci, Éric, d'être venu. Ça a été
un plaisir, Frank et Yann.
On remettra ça dans l'avenir si l'occasion se présente. Puis tout le monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube puis d'activer la petite cloche là, pour ne pas manquer les nouveaux vidéos. Puis on se reparle dans un prochain podcast.
Yes.
Ils ont un podcast pour vous.
Vous écoutez Frank et Yann en super podcastoscope 5.0.